ce match dans moins de 45 minutes maintenant. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez réécouter sur internet à l'adresse suivante françaisfacile.fr.
Radio G 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Savez-vous ce qu'est une mise en abyme ? Eh bien, lundi, l'émission de lundi est déjà en podcast et dans cette émission, nous parlions d'un podcast, celui de la mémoire arrangée par la team Javras. On a également parlé de ce qui se passe en ce moment avec nos subventions parce que oui, les budgets pourraient baisser partout et bien évidemment, cela pourrait mettre en danger Radio G et l'ensemble des radios associatives. On vous renvoie donc au podcast de lundi. Hier, on était avec l'Iglou. Je rappelle le concours qui a cours en ce moment, Ma Vitrine pour la Culture, session 2024. Ce soir, je garde un petit peu de suspense. Demain, on est avec le quai. Et donc ce soir, voilà, le suspense n'aura pas été très très long. On va être avec Nicolas Bonneau. Alors, son nom vous dit peut-être rien. Bah, il était déjà là la semaine dernière, mais pour un autre sujet. Ce soir, il vient avec sa casquette de créateur de jeux ludiques, jeux de plateau, entre autres les papates, et puis même un prototype qu'on a avec nous sur la table. Il va nous en dire un tout petit peu plus dans quelques instants. Et puisqu'il est membre du Bocal, le Bocal 49, bureau officiel des créateurs angevins ludiques, attention, il va nous expliquer ce qu'est ce lieu, ce qu'est ce bureau officiel des créateurs angevins et ludiques. Et en deuxième partie d'émission, on sera avec Miss Curvy, Pays de la Loire 2024, Juliette Abdon, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Nolwenn va s'intéresser, va lui poser des questions pour savoir tout de ce concours, qu'est-ce que c'est et comment elle est parvenue, qu'est-ce que ça a été d'être nommée Miss Pays de la Loire, Miss Curvy, Pays de la Loire 2024. On aura Adrien qui comprend toujours rien, qui capte rien au cours de cette émission. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
On parle de quoi? Juste d'un mot quand même dans ta chronique tout à l'heure.
D'Halloween et de souris dans les murs.
Ok, c'est à propos. Et bah autour de 18h30, on aura aussi le synops avec Mathis et Emilien en fin d'émission. Et Topette, c'est parti pour ce mercredi.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, on fait un petit reportage avec toi, Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir. Du 29 octobre au 10 novembre a lieu Zone de Turbulence, un festival qui est destiné au jeune public et organisé par le THV, le Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Danse, théâtre, cirque, une quarantaine de rendez-vous, chacun destiné à une tranche d'âge précise. Les deux premières années, le festival avait lieu en mars, mais de nombreux événements y sont déjà programmés. Alors les organisateurs ont décidé de le déplacer. C'est ce que nous explique Gurval Reto, le directeur du THV.
Novembre, il n'existait rien. On n'avait pas de temps fort, on n'a pas de moment qui nous rassemble. Et en même temps, c'est un moment de vacances, avec les vacances de la Toussaint, où on sait que les familles se rassemblent. Donc on a eu envie, à un moment donné, de déplacer et d'arriver à ce moment des vacances de la Toussaint et de la rentrée, pour que, également, ces spectacles puissent être joués en scolaire.
Des spectacles pour les scolaires ou les enfants et leurs parents, il y en aura pour tous les goûts dans ce festival qui a rapidement su prendre de l'ampleur. Au lancement en 2020, la commune de Saint-Barthélemy était seule pour sa deuxième édition en 2022. Elle avait été rejointe par 4 partenaires et cette année, ils sont 17. Le directeur du THV nous détaille les raisons.
L'envie, elle est de multiplier les possibles pour l'enfance. Comment est-ce que les enfants de l'agglomération peuvent voir des spectacles en proximité, des spectacles qui sont destinés à leur âge? Puis l'autre envie également, c'est comment est-ce qu'on apprend à travailler ensemble, nous les services? Comment est-ce qu'on invente un nouveau type de festival à dimension de cette aire de vie en fait, qu'est Angers et autour d'Angers?
Les spectacles seront joués sur 9 villes différentes de l'agglomération angevine, au total de quoi étendre l'aire de jeu.
Eh bien, merci beaucoup Nolwenn pour ce petit aperçu de Zone de Turbulence dont on avait parlé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant avec les équipes du THV. On vous tiendra informé, on vous mettra en description du podcast tous les liens utiles bien évidemment et là aussi pour notre invité de ce soir, le premier qu'on accueille.
L'invité de Topette sur Radio G.
C'est pas du tout comme ça que j'avais prévu le lancement. Je l'avais écrit différemment, mais c'est pas grave. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Un peu d'improvisation, ça fait jamais de mal, n'est-ce pas? Clin d'œil.
Exactement, clin d'œil.
Ah oui, comment ça s'est passé d'ailleurs la représentation de la semaine dernière avec la compagnie des passeurs de l'impalpable avant de parler de d'autre chose?
Eh bien, on a eu le grand plaisir d'avoir une salle comble, donc c'est un très grand succès. Le public avait l'air ravi de notre prestation.
Voilà, et puis on vous tiendra informé désormais dans Topette et sur Radio G des prochaines dates de la compagnie. Je crois qu'il y en a qui arrivent déjà courant novembre du côté de Saint-Clément-de-la-Place. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, mais on vous tiendra informé. Ce soir, tu vas venir avec ta casquette de créateur de jeux. Alors, jeu de plateau, il me semble que c'est le terme, mais tu vas pouvoir nous éclairer sur le terme précis. Tu as créé, entre autres, les papates. Tu pourras nous expliquer les règles. C'est très intéressant, très ludique, très fun pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai hâte, je vais l'acheter. Voilà, je vous le dis pour pouvoir l'essayer. Membre du Bocal, parce que tu n'es pas tout seul à faire ça sur Angers. Il y a beaucoup de créateurs et le Bocal, ça s'appelle justement le bureau officiel des créateurs angevins ludiques. Est-ce que tu peux nous parler du lieu, s'il te plaît, Nicolas? C'est un lieu physique?
Alors, il y a un lieu physique où on va se retrouver deux fois par mois pour pouvoir tester nos prototypes ensemble et puis essayer de régler les petits détails qui font que ça fonctionne pas, parce qu'un prototype ça marche pas du premier coup. Et on a le plaisir de se retrouver à l'ACA, qui est une maison de quartier sur Angers, qui nous accueille donc deux fois par mois pour qu'on puisse tester tout ça, quoi.
Donc c'est un peu une fédération angevine d'une certaine façon, le Bocal aussi, il y a des adhérents, il y a plusieurs
Alors,
créateurs.
C'est une association, donc on est une douzaine d'auteurs, on a deux nouvelles autrices là qui viennent de nous rejoindre. On essaye de rassembler un maximum d'auteurs et d'autrices, puisque c'est toujours plus intéressant d'avoir plus de regards possibles sur nos jeux. Et à la différence de faire tester nos jeux à nos amis, à nos familles, ben on a des regards un petit peu plus appuyés, un peu plus poussés, un peu plus aiguisés. Donc c'est toujours plus agréable de faire ça. Et après, chaque auteur, autrice vient avec son jeu, son prototype. Quoi qu'il y ait eu d'aide de la part du Bocal autour, ça reste toujours son jeu, son prototype. Et nous, on a toujours juste le plaisir d'avoir pu l'aider à faire avancer.
Donc on est plutôt auteur-autrice d'un jeu que créateur-créatrice, c'est ça le terme ?
C'est ça, c'est le terme final, c'est auteur ou autrice de jeu. Après, il va falloir trouver un éditeur si on veut qu'il soit vendu dans le commerce. Et après, il faudra des distributeurs qui veulent bien le distribuer. Et après, il faudra des vendeurs qui voudront bien le vendre. Et au final, plein de joueurs.
C'est tout un processus.
Exactement.
Donc, à quoi ressemble, ce sont des personnes professionnelles essentiellement, ou on a un petit peu de tout, des personnes qui sont diversifiées sur d'autres activités? Qui sont les auteurs et autrices?
Alors, en France, en tant qu'auteur ou autrice qui vivent de ce métier, il y en a une vingtaine en France qui peuvent en vivre, parce qu'ils ont des noms connus, parce qu'ils font des jeux qui fonctionnent, parce qu'ils ont des éditeurs qui les suivent, et que voilà, ils font du beau travail et qui sont reconnus pour ça. À Angers, il n'y a pas d'auteurs qui en vivent, donc c'est avant tout une passion. La passion du jeu et la passion de créer des jeux. Et après, certains jeux sont édités. Alors, j'ai la chance d'en avoir un d'édité. Au Bocal, on est plusieurs à avoir des jeux édités. Je peux même en citer.
Mais bien sûr. Oui. C'est la question suivante.
Ah, bah voilà. Vous avez peut-être vu passer le jeu qui s'appelle Maudit Maudit, dont un des auteurs est Laurent Prin, qui fait partie du Bocal. On a Le Point sur la Table aussi, qui est un jeu d'ambiance et d'association de mots, un peu comme Maudit Maudit. Qui s'appelle Olivier Mousseau, l'auteur. Et on a aussi Antoine Huchin qui a été édité avec son jeu Quadri. Et lui, son éditeur, c'est un éditeur angevin qui s'appelle exactement Creative and Cool. Donc un éditeur angevin on a cette chance-là d'avoir un éditeur pas loin qui vient à nos réunions des fois pour tester les jeux et qui signe qui pourrait signer deux, trois jeux du Bocal. Donc ça, c'est plutôt agréable. On a Domimo, on est quatre auteurs dessus, dont j'en fais partie, mais il y a Pascal Lemagneau, Benjamin Gélin, Antoine Huchin et moi-même. Et donc ce jeu, on l'a auto-édité avec le Bocal. Donc on s'est fait maison d'édition. Alors il y a que 500 exemplaires, il faut nous contacter directement si on veut les trouver, parce que alors on peut en trouver chez Sortilège s'il y en a encore à Angers, mais voilà, on s'est amusé à faire cette petite édition entre nous. Et on a un jeu qui a été édité de Pascal Lemagneau qui s'appelait Drac Attack, qui hélas, je pense, n'est plus disponible.
Nicolas, tu parles de sortilège, c'est étonnant parce que ça me fait penser justement automatiquement quand on parle jeu de plateau à Angers, précisément, il y a des choses qui commencent à arriver visuellement, on imagine des choses, il y a des univers associés un petit peu, on va pouvoir parler du festival auquel vous participez à Saint-Rémy-la-Varenne, mais qu'on comprenne bien un petit peu, on est dans quel registre d'univers de jeu, est-ce que tous les univers sont associés du jeu vidéo au jeu de rôle incarné avec des cosplays et jeux de plateau en passant?
Alors au sein du bocal, on est essentiellement des jeux d'auteur plateau. Donc jeux de cartes, jeux de plateau, alors ça peut être des jeux de plateau un peu plus longs, pas jusqu'au jeu de rôle. Il y a des joueurs de jeux de rôle au sein de notre association, mais c'est pas de ça dont on parle, puisqu'on est vraiment sur la création de jeux de société, donc jeux de plateau. Donc on parlait des Papates, qui est mon premier jeu qui a été édité. Lui, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu d'extérieur. Donc c'est encore autre chose, mais ça peut faire partie des jeux qu'on teste entre nous.
Jeu de rôle, c'est marrant. Mais bon, bref, le festival des jeux auxquels vous participez à Saint-Rémy-la-Varenne, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quand même un gros événement. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller y faire un tour et c'est là, pour le coup, il y a tout un monde.
Tout à fait. Donc ça, c'est au mois de juin, je crois, qu'il se passe ce festival. C'est un beau festival au sein d'un prieuré qui est organisé par plusieurs personnes, dont Pascal, qui fait partie aussi qui est aussi auteur de jeux. Nous, on y participe en tant qu'auteur avec des prototypes. On fait tester nos jeux pendant le festival, et donc on a ces retours publics qui sont toujours intéressants aussi, en plus des retours en interne entre nous. Et donc ça fait partie des festivals dans le coin, parce qu'il y a aussi un festival à Angers qui s'appelle Deux Jours en Jeu, qui a eu lieu en début octobre, et là il y a même un concours de prototypes qu'on organise. On y participe aussi quand on peut y participer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'organisation, et on a plusieurs auteurs qui viennent aussi un peu d'ailleurs. On a eu des fois des auteurs qui venaient de Lyon pour venir faire ce festival, alors qu'il n'y a aucun enjeu à ce festival à part gagner le coup de cœur du public.
Voilà. C'est de la passion, c'est vraiment de l'envie, et puis on aime. C'est d'abord du plaisir c'est du travail bien évidemment, mais oui. Jamais vu comme une contrainte en tout cas. Tu parlais de prototype, puis on a un sur la table, on va en parler dans quelques instants, juste avant de faire une première pause musicale. Autour de la table, est-ce qu'on pratique les jeux de plateau un peu ou pas, Nolwenn?
Les jeux de société de manière générale, oui. Les jeux de plateau aussi, franchement j'adore, mais les jeux de société, c'est sous-côté, c'est vraiment super bien.
Elle va se lancer dans un combat, je pense, Nolwenn, presque politique, pour défendre les jeux de plateau et de société. Juliette?
Pareil, je joue aux deux, je suis très très jeu. D'ailleurs, j'ai joué au, je vais mal le dire, Quadri. J'ai déjà joué à ce jeu-là.
Et
très sympa.
Ok, ouais. Très sympa, tu recommandes. Adrien, d'un mot, tu aimes les jeux de plateau?
Je joue pas du tout aux jeux de société. Voilà, je sais pas quoi dire de plus.
Adrien capte rien, ce sera dans quelques instants, mais avant tout ça, on fait une pause musicale sur le 100.5 FM, One Life de Festen.
Stand on the line.
One Live de Festen qui était passé dans Topette l'année passée, la saison passée, pour nous parler de sa date on stage. Voilà, on vous renvoie vers le podcast. Suivez ses actualités un petit peu à Festen. Ça s'écrit P-H-A-Y-S-T-E-N. Lui, ça s'écrit Nicolas Bonneau, comme ça semble se prononcer, qui est toujours avec nous. Ça va toujours, Nicolas?
Oui, toujours.
Incroyable. On a appris plein de choses hors antenne. C'est dommage qu'on laisse pas les micros ouverts finalement pendant les pauses musicales. On parlait de création de jeux, mais on va en parler ensemble. Ouais. Alors, pas tout à fait de ce qu'on disait ensemble, mais on va parler de celui que tu as créé, ton œuvre, un petit peu ton chef-d'œuvre, celui qui est le plus abouti, entre guillemets, en tout cas qui est édité, qui est distribué, qui est vendu, qu'on peut acheter à Noël, par exemple.
Exactement.
Petite idée.
Oui.
Ça s'appelle Les Papates. Attention aux crocodiles.
Exactement, attention aux crocodiles. Oui, j'ai la chance en plus de ce jeu d'avoir un éditeur qui est très connu pour son jeu extérieur en bois qui s'appelle le Molki. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là.
Ça parle.
Mais mon jeu a été mis dans une caisse de Molki, donc on le retrouve assez facilement en magasin et un peu partout en France. Donc ça, c'est plutôt cool.
Tu peux nous expliquer les règles, s'il te plaît ?
Exactement, nous allons jouer des animaux dans la savane et il fait très chaud dans la savane. On a envie d'aller boire à la rivière. Il y a une corde qui est tendue à 7 pas de distance. Et derrière la corde, il y a les crocodiles. Donc attention, crocodiles, il ne faudra jamais envoyer ces papates qui sont nos palets. Donc c'est des palets qui font 10 cm de diamètre en bois, massif, français, et qu'on va jeter pour se rapprocher le plus possible de la rivière. Mais attention, il faudra toujours renvoyer ces papates de plus en plus loin. Ça veut dire que si on ne dépasse pas ses propres papates, où il y a nos empreintes de notre animal dessus, hein, on va pouvoir jouer un lion, un zèbre, une gazelle ou un éléphant. Et si on les dépasse pas, ben on va se faire un croche-papate. Ah oui, et donc si on se fait un croche-papate, la papate qu'on vient de lancer sera éliminée. Toutes les papates qui sont éliminées, on les jette au crocodile, histoire de compter les points à chaque fin de manche, qui seront du bon côté de la rivière. Donc il faudra être le plus proche possible. Si on est le plus proche, on aura plus de points que si on est plus éloigné. Il faudra avoir mis le maximum de papates en jeu. Plus il me reste de papates, plus j'aurai des points supplémentaires. Et si c'est moi qui ai la plus petite distance entre mes papates avant, mes deux palets les plus proches de la corde, j'ai le droit même à deux points bonus. Parce que sans mes papates avant, je ne peux pas me pencher pour boire à la rivière.
Tu maîtrises bien les règles, hein. On a l'impression que c'est toi qui l'a inventé, ouais, ce jeu. C'est vraiment, il suffit de lire une fois les règles et on comprend d'instinct, en fait, la mécanique. Et par exemple, j'ai juste lu les règles et j'ai l'impression d'avoir pris plaisir à y jouer alors que j'ai pas encore joué. Donc c'est pour ça, je suis très curieux de voir en conditions réelles. Ça, c'est ce qu'il y a déjà en cours. Là,
exactement.
T'es venu avec des espèces de cubes. C'est un prototype. Tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ce prototype?
Exactement. Ce prototype, c'est le prototype que j'ai présenté sur le festival de deux jours en jeu qui s'appelle, et il y a un concours sur ce festival qui s'appelle Prélude, le vendredi soir à la Bibliothèque Toussaint, Angers. Et on était une douzaine d'auteurs à présenter des prototypes. Donc un prototype, c'est un jeu qui n'est pas édité, c'est un jeu qui est en cours de réflexion ou qui aboutit. Il peut être abouti aussi. Et donc avec ce jeu qui s'appelle, que j'ai appelé Tic Tac Tower, en référence à Tic Tac Toe, en version anglaise, c'est le morpion de chez nous. Donc il faut aligner trois pions de sa couleur. Sauf qu'ici, on va jouer en hauteur. On aura trois niveaux de jeu et il va falloir réussir à aligner trois de ces pions, mais sur les trois hauteurs. Les trois pions devront passer par la hauteur. Donc soit on fait une tour avec trois pions qui m'appartiennent sur la même case, soit je fais un alignement en escalier en 3D. Donc c'est un escalier 3D, il faut vraiment faire un alignement dans la diagonale 3D du cube.
Juliette, t'as déjà envie d'aller prendre pour voir comment ça marche, hein.
Ouais, moi j'adore. Et d'ailleurs, les papates, je connais aussi le jeu, parce que je suis animatrice pour enfants, et en centre, ça cartonne.
Ça marche très bien.
Bon, ben voilà, la preuve en est. Alors le prototype, on espère qu'on pourra, parce que là, pour l'instant, nous, on peut pas y jouer, en fait, il y a qu'un exemplaire.
Ah ben non. C'est là où moi j'ai pas d'éditeur aujourd'hui pour ce jeu parce que c'est un prototype, mais j'ai ma propre société qui me permet de l'éditer moi-même. Et donc je fabrique moi-même les jeux. On peut même choisir la couleur de ses pions, la couleur du plateau. Il suffit d'aller sur mon site qui s'appelle NB Conception, comme Nicolas Bonneau Conception.fr, et puis vous trouverez les liens très vite pour fabriquer vous-même votre jeu à vos couleurs.
On pourra en reparler tout à l'heure en fin d'émission, les infos pratiques justement, où découvrir tes créations, et puis celle du bocal peut-être, il y a un site internet aussi qui existe. Juste d'un mot, Nicolas, créer un jeu, c'est compliqué. Tu nous parlais de ton fils de 10 ans qui en quelques minutes a pu trouver une mécanique. Alors peut-être que c'est l'inspiration de papa aussi qui l'a aidé, mais est-ce que c'est compliqué de créer un jeu?
Alors, ça dépend en fait de chaque personne. Il y a des gens qui vont avoir. On peut partir d'un thème, on peut partir d'une mécanique, on peut partir d'une idée vague. Et puis on peut aussi partir d'une fulgurance. Alors tic-tac-toe, c'est une fulgurance. Je me suis réveillé la nuit, je l'ai noté sur ma tablette, et puis le lendemain je l'ai imprimé, je l'ai testé le soir, puis ça marchait. Donc c'était très cool. Les papates, c'est un peu pareil. C'est une fulgurance. Il y a eu quelques modifications par rapport au début, mais très peu. Et on parlait de mon fils Noé qui a imaginé un jeu aussi, un prototype qui fonctionne aussi. Et lui aussi, il l'a imaginé en un quart d'heure. Après, il y a des gens, mais ils vont y passer un an, deux ans, six ans, sept ans avant d'avoir un jeu qui soit abouti à leurs yeux et qui vont quand même trouver éditeur ou pas. Ça c'est toujours la question clé derrière.
En tout cas, j'imagine qu'il faut déjà prendre plaisir à jouer à d'autres jeux. Peut-être que ça aide aussi à s'inspirer, à comprendre les mécaniques. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer? Est-ce que tu te souviens d'un jeu très lointain? Je sais pas, les petits chevaux, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui était à fond dans les jeux de société qu'on appelle modernes aujourd'hui. Donc, c'est justement sortir du petit chevaux, sortir même des jeux comme le Monopoly ou la Bonne Paye ou ce genre de choses-là. Et donc, il m'a fait découvrir énormément de jeux qui sont complètement différents de ça, en fait, où on va trouver une mécanique différente, où on va y trouver un plaisir différent. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est le partage avant tout, c'est justement de jouer avec quelqu'un d'autre, de pouvoir découvrir des nouvelles règles, découvrir des nouveaux visuels de jeu, parce que les illustrateurs aussi sont pas forcément très reconnus sur un jeu, mais le travail d'illustration est vachement important. Hélas, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, mais c'est toujours intéressant d'avoir des vrais illustrateurs sur les jeux. Mais voilà, c'est vraiment ce plaisir là, c'est la couleur, c'est le moi j'aime les jeux d'ambiance, j'aime les jeux bien vivants, j'aime pas les jeux qui durent 3 heures.
Voilà. Ouais, faut vite qu'on aboutisse au plaisir de gagner ou de perdre en fonction.
Non, le plaisir de partager, mais si le jeu prend trop de place, au final, c'est pas si intéressant. Enfin, moi c'est pas ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas le jeu en lui-même, même s'il est très bien, c'est ce qu'on va partager autour de ce jeu-là. Après, si c'est un super jeu et qu'on y passe 3 heures et qu'on y passe 3 heures superbes, pourquoi pas?
Les jeux, c'est fantastique, ça permet de créer du lien, ça permet de se retrouver ensemble, peut-être de sortir un petit peu des écrans, des fois qui accaparent nos vies. C'est aussi un bon moyen de développer ses facultés cognitives, son imagination, ce genre de choses, sa créativité également. Est-ce que ça mériterait, Juliette pourrait me le confirmer, en école de proposer plus de jeux, par exemple, pendant les cours?
Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se servent de jeux de société pour que les enfants puissent appréhender différemment ce qu'on veut leur apprendre. Et il y a beaucoup de jeux qui peuvent apporter ça.
Tic-Tac Tower, les papates, et puis le reste des créateurs, créatrices, auteurs, autrices, pardon, du bocal. On en parle tout à l'heure en fin d'émission. Tu restes avec nous, Nicolas, bien évidemment.
Avec
dans quelques
plaisir.
Instants, on va être avec Juliette Abdon, qui a été tout simplement élue Miss Pays de la Loire, Miss Curvy Pays de la Loire 2024. Ça, c'est pas rien. C'est avec Nolwenn que ça se passe dans quelques instants. Mais avant tout ça, on va essayer de faire comprendre des choses à Adrien. Adrien, capte rien.
Adrien capte rien dans Topette. Mais aussi chez lui. Au travail, enfin partout.
Merci pour ce super générique. J'ai capté toutes les règles du Tic-Tac Tower, déjà, donc je suis assez fier de moi.
Bravo.
Par contre, je capte pas trop le concept d'Halloween. Mais déjà, je voulais m'excuser parce que j'étais pas là il y a 2 semaines. Et j'étais pas là non plus pour la semaine de la santé mentale, alors que c'est quand même ma semaine. Mais j'étais ravi qu'à la place vous ayez eu Charlie, l'égérie Lexomil. J'étais pas là parce qu'en fait j'ai trouvé du boulot. Wouhou. Mais j'ai tenu que 4 jours. Wouhou. En fait, je travaille dans une administration et moi j'ai la phobie administrative. Donc dès le deuxième jour, j'ai dû analyser un document juridique super complexe. 5 pages de termes hyper pointues, mon contrat de travail, et j'ai pas pu. Du coup, j'ai voulu démissionner et on m'a demandé pour démissionner de faire un courrier recommandé avec accusé de réception. Et quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception pour me dire qu'ils avaient bien compris que j'avais démissionné dans mon courrier recommandé avec accusé. Foutez-nous la paix, vraiment, foutez-nous la paix. Je pense qu'on devrait pouvoir démissionner par SMS en envoyant un doigt d'honneur à son patron. Moi, je pense que les emojis, c'est la solution contre la phobie administrative. Je pense qu'on devrait pouvoir déclarer un changement d'adresse avec un emoji maison. On devrait pouvoir se marier avec un emoji cœur, divorcer avec un emoji valise, déclarer ses impôts avec un emoji drapeau de la Suisse. Bon, ça, c'est pour vous, Pierre-Benoît. Moi, c'est plutôt le drapeau du Bangladesh. Bon, revenons à nos citrouilles. Halloween. J'ai été invité à une raclette d'Halloween par une dame que je connais pas du tout, qui m'a vu sur scène. Donc j'en profite pour passer une annonce. N'hésitez pas à m'inviter à des événements où je peux manger gratuitement, parce que je vous rappelle que j'ai plus de boulot. Et du coup, je sais pas comment me déguiser pour cette soirée. J'avais pensé à me déguiser en Émile Louis. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà parce que Émile Louis, ça fait peur. Comme tous les gens qui ont deux prénoms, ça fait peur. Émile Louis, Guy Georges,
Pierre Benoît.
C'était ma vanne.
Pardon.
Patrick Sébastien, Pierre Benoît, mais surtout Émile Louis. Moi, je trouve que ça fait très très Halloween parce que quand on y pense, distribuer des bonbons aux enfants et faire peur à leurs parents, ça ressemble beaucoup à la Saint-Émile Louis quand même. Bon, après, moi, je suis pas très concerné par Halloween chez moi parce qu'en fait, j'habite dans une résidence où il y a que des vieux. Donc chaque année, j'achète 2 kilos de carambars au cas où il y a un gosse qui sonne. Et en 5 ans, il y a jamais personne qui a sonné. Si une fois, il y a les pompiers parce qu'ils se sont trompés d'étage, ils allaient chercher le cadavre de Madame Laurent au premier étage. Et moi, en fait, j'habite au rez-de-chaussée. C'était Catherine Laurent, elle s'appelait. De prénom. Bon, y a beaucoup de gens qui meurent dans mon immeuble. C'est un peu Halloween tous les jours finalement. Il y a aussi beaucoup de souris dans mon immeuble. Il y en a une par exemple qui a squatté mon appartement 3 semaines. Je l'ai appelée Maya, Maya la souris. Et il y a 3 semaines en fait, elle est venue me saluer comme ça, piou 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 piou. Ce qui veut sûrement dire j'ai chié dans tes chocs à pic. Mais moi, je l'avais pas invitée, Maya. Donc du coup, j'essaie de la trouver comme ça. Je l'appelle, je dis Maya, 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 introuvable Maya. Et le lendemain, je suis dans ma cuisine comme ça, je regarde Tom et Jerry quand tout à coup. Piou, 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 Maya. Ou quelqu'un qui l'imite très bien, mais que j'ai pas invité non plus. Donc moi, je la cherche partout comme ça, dans la chasse d'eau, dans le frigo, dans la boîte à Playmobil, je la cherche introuvable. Le lendemain, 3h du matin, piou, 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 Maya, je vais la chercher dans les endroits où j'ai pas encore regardé, dans les murs. Donc je prends mon plus beau marteau, comme ça, je commence à défoncer les murs et les meubles de la cuisine, comme ça, je bam, 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 piou, 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 bam, 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 piou, piou, piou. Et j'ai réussi à retrouver Maya, je l'ai retrouvée. Et Maya s'est éteinte dans un long dernier souffle, elle fait piou. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si un jour vous pensez avoir une souris dans votre cuisine, avant de tout casser chez vous, vérifiez que c'est pas juste le détecteur de fumée qui a plus de piles. Ça vous évitera de perdre votre caution.
Eh bien, merci beaucoup, Adrien, qui, oui, effectivement, ne capte pas grand-chose. Désolé pour la vanne que je t'ai piqué, du Pierre Benoît, mais on se retrouve dans 2 semaines malgré tout, tu m'en veux pas trop ?
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Allez, on passe à notre deuxième sujet de la soirée.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Et ça se passe avec toi, Nolwenn, n'est-ce pas ?
Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Juliette Abdon. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es Miss Cœur Vie Pays de la Loire et tu as été élue le 12 octobre dernier. Tu es aussi comédienne, mais avant d'en parler, on peut rappeler d'abord, qu'est-ce qu'on entend par Cœur Vie dans l'élection Miss Cœur Vie ? Est-ce qu'il y a des règles, des mensurations bien précises ?
Eh bien oui, faut être au-dessus du 42. C'est la première règle et après il y en a pas tellement. Je sais qu'il y a une certaine règle d'âge, mais je pourrais pas vous dire vraiment parce que nous on avait jusqu'à 35 je crois. Et après non, tout le monde est plus ou moins accepté. Après il y a quelques règles, mais on vient de toute façon pour tous la même chose. Donc non, il y a pas vraiment de règles à part dépasser le 42.
Et comment se passent les sélections ?
C'est sur entretien. D'ailleurs, les nouveaux là pour 2025 vont bientôt commencer parce que c'est le 27 octobre et le 3 novembre. Et on rencontre tout le comité. Donc il y a en fait il y a Miss Cœur Vie France et pour après avoir les Pays de Loire, les Auvergne, les centres, etc. Il y a des autres comités et c'est ceux-là en fait qu'on rencontre avec la Miss actuelle. Et on discute, voir ce qu'on recherche dans le concours. Parce que oui, c'est un concours de beauté. Mais moi, par exemple, j'y allais pas du tout pour ça. Les devises de Miss Cœur Vie, c'est partage, entraide, solidarité et respect. Et c'est vraiment ça, en fait, le concours. Moi, j'y allais pour trouver un endroit sain, pour trouver un endroit où je pourrais prendre confiance en moi, accepter mes courbes. Et le concours de beauté, en fait, il vient vraiment... Enfin, moi, en tout cas, c'était à la dernière minute. Je me voyais pas du tout devenir Miss France. Pour moi, j'avais... Miss Cœur Vie France, pardon. Pour moi, c'était vraiment un concours pour m'accepter, moi. Et la couronne, c'était très, très loin. Très, très loin.
Et est-ce que tu as dû te préparer à ce concours ? Est-ce qu'il y a une préparation ? Comment ça se passe ?
Alors oui, après chaque comité est différent, mais nous, Pays de la Loire, moi j'ai été prise en septembre 2023, Et après, tous les mois, on a plus ou moins fait des ateliers, des shootings pour essayer, bah voilà, de prendre confiance en soi. Et 3-4 mois avant donc l'élection du 12 octobre, on nous dit bon bah là on va se préparer parce qu'il y a des chorés, donc il y a une chorégraphie en maillot de bain, une chorégraphie en tenue qu'on nous a prêtée parce qu'on a des partenaires. Et après il y a plusieurs défilés en fait pour le soir de l'élection.
Et comment ça s'est passé pour toi le jour J? Comment ça s'organise?
Alors c'est assez bizarre parce que j'avais vraiment l'impression d'être en répétition. Je réalise toujours pas trop que ça s'est passé. On arrive à 9h, on répète sur la scène parce que on n'a jamais répété sur une scène. Le catwalk, le défilé, voilà, pardon. On l'invente aussi sur le moment J. Alors après, on a des chiffres, on a des numéros attribués, donc c'est plus facile parce qu'en fait, c'est par numéro. Donc c'est plutôt toujours la même chose. Puis on répète les chorégraphies. Et après, à 16h, on passe au maquillage, au coiffage. Et on met la première tenue et ça commence à 20h30.
Et maintenant que tu as été élue donc Miss Pays de la Loire, c'est quoi la prochaine étape? C'est l'étape nationale?
Oui, c'est Miss Curvy France, la prochaine étape. Donc là, c'est le 19 avril à Mézos, donc c'est dans le sud. Et là, tout au long de l'année, il n'y a pas de rendez-vous pour les France. En fait, on suit, nous, notre comité. Donc moi, je vais suivre les prochaines candidates qui seront, elles, élues en mai prochain. Et c'est une semaine avant, donc du 13 au 19 à peu près, je pars à Mézos avec toutes les Miss Curvy des autres régions et pendant une semaine, on s'acharne à préparer un show pour le 19 qui est dans un cabaret qui s'appelle Les Mirages.
Pour parler un petit peu de ton parcours, j'ai pu voir que tu étais comédienne. Mmh. Est-ce que ça t'a aidé pour le concours? Est-ce que ça t'a permis d'appréhender la montée sur scène?
Alors... inconsciemment je pense que oui, mais consciemment pas du tout, j'étais totalement paniquée. Après j'ai bien vu que comparé à d'autres candidates où c'était la première fois qu'elles montaient vraiment sur scène, je pense qu'il y avait ce truc où moi je savais globalement comment ça allait se passer, par exemple danser sur scène. Moi je suis plus dans la comédie musicale et je sais comment ça se passe et je sais qu'une fois que je suis sur scène je dois pas paniquer parce que je connais ma choré, etc. Comparé à d'autres qui pour la première fois c'était la première montée sur scène, en plus t'entends la musique, mais t'entends aussi en fait toute la famille qui est venue et qui crie ton nom et tout. Enfin, il y a un gros brouhaha. Et je sais que on commence la première chose qu'on fait quand on est sur scène, c'est danser et c'est l'exercice le plus compliqué vraiment pour commencer. Et du coup, je pense que oui, ça m'a aidée, mais ça n'a pas du tout enlevé le stress quand même. J'étais paniquée.
Et à quel moment tu t'es décidée du coup de sauter le pas, d'y aller, de te présenter?
Alors ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Un an avant à peu près, je rencontre quelqu'un à une soirée de famille qui me dit bah moi j'ai fait ce concours et tout, je pense que t'adorerais. Et je fais oh non, un concours de beauté c'est vraiment pas mon truc, vraiment pas. Et en fait elle me le vend, bah comme je vous ai dit, comme un endroit sain, comme un endroit où je pourrais m'assumer et essayer de prendre confiance en moi. Et je me suis dit ah. Et comme tout, je laisse passer. Et un jour, sur les réseaux, je vois casting Miss Curvy. Il est 23h30, je crois. Et je fais, allez, je le fais maintenant, parce que sinon, je le ferai jamais. Et voilà, je suis rentrée dans l'aventure un peu comme ça, sans trop savoir où j'allais. Et en me disant, allez, il est 23h30, je le fais, parce que sinon, je vais passer à côté.
Donc apparemment, c'est un repas de famille que ça s'est décidé. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux que tu étais assez proche de ta famille. Est-ce qu'elle t'a beaucoup soutenue? Est-ce qu'ils t'ont aidé dans ta préparation au concours?
Oui, totalement. Ma famille, c'est un gros, gros appui. Mon copain aussi, surtout en fait depuis que j'ai gagné, il extrapole tout et il me voit déjà faire plein de choses. Mais bien avant, oui, c'est hyper important. Malheureusement, le fait d'être ronde, c'est très compliqué. Ça l'est beaucoup moins maintenant et ça évolue. Et un jour, j'espère, ça sera plus un problème. Mais malheureusement, c'est toujours un gros problème. Et être soutenue par sa famille, c'est le plus important. Il y en a, malheureusement, c'est pas le cas. Non, moi, j'ai cette chance de me dire que ma famille, elle est là et qu'il n'y a pas de problème.
Pour parler justement un petit peu de la question des formes, de l'image, tu disais dans ta vidéo promotionnelle sur Instagram que c'est un concours, tu l'as fait pour continuer à accepter ton corps. Verdict, du coup, est-ce que ça marche?
Eh bien, ça marche un petit peu, oui. Je pense que je suis contente, en fait, de continuer l'aventure jusqu'aux France parce que mon parcours est loin d'être terminé. mais en fait d'être avec des femmes qui ont la même problématique que toi. Alors malheureusement, en fait, pendant l'année, il y a beaucoup de choses, donc on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais c'est quand même un endroit où t'es là à te dire ok, en fait, effectivement, je suis pas la seule, on le sait. Mais quand on est dans un endroit où on voit que effectivement on n'est pas les seuls et qu'on peut en parler et que en fait c'est normal d'être comme ça et il n'y a pas de problème à dépasser le 42, c'est oui, ça aide forcément.
Et puis les formes, les rondeurs n'enlèvent rien à la beauté. Est-ce que le concept aussi derrière ces concours, l'avantage, parce qu'il y a aussi Small Beauty qui existe, il y a plein d'autres concours annexes qui sortent des standards de la beauté, on ne sait pas qui les a établis, mais en tout cas il y a des standards apparemment qui existent. Est-ce que ce qui est bien avec ces concours, c'est que ça permet justement de briser un petit peu ces stéréotypes qu'on peut avoir sur le physique des gens qui définiraient soi-disant la beauté?
Ah bah oui, bah c'est le but de tous ces concours, et c'est vrai qu'en entrant dans ce concours-là, j'ai vu qu'il y en avait mais 150 des concours pretty, et puis on parle des femmes mais il y a également les hommes, enfin là c'est encore sous côté parce que Miss Curvy en règle générale on n'en parle pas vraiment, mais alors encore moins les Mister, alors que pareil il y a Mister Curvy, il y a Mister Pretty, il y a Mister Small, et oui, le but c'est vraiment de, et ça devrait être je pense autant médiatisé malheureusement que Miss France. Mais oui, bien sûr que c'est pour promouvoir la beauté sous toutes ses formes.
Ok, ben merci beaucoup Juliette. C'est vrai qu'il y a Curvy, il y a peut-être Skinny aussi qui existe. Faut vraiment, je pense que c'est bien qu'on puisse sortir de ces stéréotypes. Merci pour ton témoignage. Merci, bravo déjà aussi pour Miss Curvy Pays de la Loire 2024. Bon courage à celle qui prendra la succession. Puis on se tient au courant, bien évidemment, si jamais tu es élue Miss Curvy France, pour être on croise les doigts, bien évidemment. Tu nous redonneras les infos pratiques éventuellement si on peut te suivre. Je crois qu'il y a un compte Instagram qui est totalement dédié. Merci beaucoup. Nolwenn, vous restez avec nous, toutes les personnes en studio et toutes les personnes à l'écoute actuellement. On fait un petit détour par le Synops, épisode 2 avec Mathis et Emilien, puis on revient tous ensemble.
Le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur avec Mathis et Emilien.
Mardi 14 octobre à 20h, au cinéma d'Arrée et ses dangers, les 400 coups, un film humaniste, social, réalisé par Reda Kateb, était projeté en avant-première. Son nom, c'est Sur un fil. Le Synops a donc visionné ce dernier afin de vous livrer notre avis sur un film alliant amour et affectivité sans limite à la réalité d'un monde hospitalier en complications, mêlant le rire au sentiment avec humanité. Pour ce faire, Reda Kateb met en scène Aloïs Sauvage dans le rôle de Zouzou, Sarah Giraudeau pour Clémence, Philippe Robot pour Gilles et enfin Samir Ghesmi pour Abdel. Ce film sort en salle le 30 octobre. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur le site des 400 coups. Je laisse désormais la place à Emilien pour le synopsis.
Joe, acrobate dans un cirque de rue au tempérament téméraire et intrépide, fait une malheureuse chute après l'une de ses performances. Cloîtré dans un fauteuil, la jambe brisée, sa carrière est suspendue pour un temps indéterminé. Mais l'inactivité commence petit à petit à peser sur cet artiste à l'énergie inépuisable. Le destin frappe alors à sa porte lorsque Gilles, clown pour enfants hospitalisé en pédiatrie, lui propose de l'accompagner dans cet univers singulier. Lancé dans l'inconnu, Joe, rapidement, peut-être trop rapidement, rejoint l'association Né pour Rire et se mue en Zouzou, son clown, une forme de chimère millibillule mi-fée. Joe, alias Zouzou, va alors au gré des pleurs, des cris et du désespoir des enfants et des parents, tenter de redonner le sourire et la joie de vivre à ces mômes pour qui la vie n'a pas fait de cadeau. C'est alors qu'un magnifique sentiment d'amour et d'amitié va petit à petit naître au sein de ce service pédiatrique, où ce trio éclectique de clowns, sur un fil délicat, tentera inlassablement d'apporter joie et réconfort. Alors lorsque le film a commencé, je ne savais pas très bien où je mettais les pieds. Reda Kateb me fait sortir de ma zone de confort, puisqu'auparavant je n'ai jamais été tellement sensibilisé au personnage comique du cirque, à savoir l'humour clownesque. Les premières minutes du film mélangent milieu hospitalier, enfant malade, art du cirque, clown d'un côté et acrobate de l'autre, sans pour autant délaisser sa signature, la précarité sociale des individus de quartier. Ces sujets sont traités avec ménagement et délicatesse, et plus le film se prolonge, plus les messages sont impactants.
J'envisage tout à fait ton point de vue. Après, de mon côté, j'ai été immédiatement happé par le film. Joe, le personnage principal interprété par Aloïs Sauvage, que j'ai découvert, soit dit en passant, je l'ai trouvé tout bonnement grandiose. Son caractère très rentre-dedans, Tête de mule qui se transforme véritablement lorsqu'elle endosse son personnage de Zouzou, son clown, en un être doux, calme, attentionné, voire maternel. Et c'est à ce moment-là où d'une part j'ai vu le potentiel immense de l'actrice et d'une autre la portée, comme tu le dis, de si humain que ce film a su dès les premières minutes à mettre en scène.
Pour revenir sur l'aspect social et humanitaire de ce film, Reda Kateb a trouvé un moyen ici de toucher et de parler aux professionnels du monde de la santé, et particulièrement hospitaliers, encore aujourd'hui trop invisibilisés dans nos récits et souvent représentés comme impassibles, sans émotion et froids dans un contexte post-Covid, qui était encore il y a quelques mois les héros de notre siècle. Par mon interprétation, je me sens ici un peu insatiable quant à la mise en avant peut-être trop superficielle de la psychologie de ces professionnels de santé et des clowns qui font de leur vie une donation aux malades, et ici en particulier les enfants. Reda Kateb a certes trouvé le moyen de parler à ces professionnels, mais n'a, selon moi, pas mis assez d'accent sur la psychologie de ses protagonistes.
Tout à fait. Reda Kateb n'a pas assez traité, comme tu le dis, l'impact psychologique et mental que ce métier pouvait avoir sur ces individus. Et je suis d'accord aussi, j'aurais bien aimé avoir quelques petits plans sur la vie de Joe ou de Gilles lorsqu'ils se retrouvent tout seuls chez eux le soir, après une dure journée de travail. Un point aussi qui m'a percuté, c'est l'image du clown communiqué dans Sur un fil. On a depuis quelques années une coulrophobie, la peur des clowns, qui s'est généralisée partout. T'as eu la sortie du livre et du film, ça, qui l'a initié, et puis jusqu'à encore très récemment, le film Terrifier 3. Tous ces films transmettent cette même image du clown tueur, un mangeur d'hommes et d'enfants. On en a finalement oublié le rôle principal du clown, qui est d'apporter le sourire. Et c'est là où Reda Kateb a, à mon sens, réussi son pari, c'est de recommuniquer l'identité véritable du clown, au plus profond en plus de ce qui peut être, un être aussi absurde et innocent que l'enfant.
Exactement. Pour te suivre, Reda Kateb propose une nouvelle approche de la vision du clown qui, dans l'imaginaire collectif, est souvent perçue comme l'incarnation même de terreur et de frisson d'un côté ou du comique burlesque avec sa tarte à la crème de l'autre. Et c'est là que Aloïse Sauvage et Philippe Rebaud incarnent le clown comme pratique faisant miroiter une lueur d'espoir dans les yeux des enfants malades.
Il y a un élément que j'ai trouvé légèrement niais dans son métrage, c'est ce côté où le monde est joli et beau, les oiseaux chantent et le sourire des clowns guérit presque miraculeusement le cancer des enfants malades. Mais non, à part peut-être à un moment, on n'a pas ce sentiment clair que ces enfants sont en phase terminale et qu'une partie d'entre eux ne reverront sans doute jamais le jour. Ça aurait été peut-être aussi plus sensible, mais pertinent à mon sens, d'inclure réellement ce côté de la mort, qui est à mon grand désespoir aussi plus que présente dans ces services de pédiatrie.
Et c'est donc ici que Reda Kateb, à travers Sur un fil, place le clown comme un acteur central dans l'apaisement et la rémission des enfants malades, en écartant peut-être les traitements, la médecine et la science. Par conséquent, on pourrait se demander si ce film ne tend pas à tomber dans l'utopie.
C'est déjà la fin de notre podcast où notre analyse sur le film Sur un fil signé Reda Kateb se clôture ici. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également comme d'habitude pour notre prochain numéro. Je le rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram @lesynops tout attaché. Jusqu'ici, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.
Le synapse qu'on retrouvera le mois prochain avec Emilien et Mathis. Topette, c'est fini pour ce soir, voilà. Prochaine émission, c'est demain, ce sera la dernière de la semaine. En attendant, on est toujours avec nos invités de la soirée. On est aussi avec Adrien. Ça va, Adrien? T'as passé un bon moment?
Très bien, c'est la première fois que je rencontre une Miss, je suis très honoré.
Voilà, en plus t'as compris les règles tout à l'heure qu'on a exposé des papades, donc plutôt sympa, plutôt bonne soirée pour toi. Hein.
Très bien.
Et on se retrouve dans deux semaines, bien sûr, Adrien capte rien, prochaines actus peut-être pour te voir sur scène d'un mot quand même
Bah, j'ai un site internet, adriencoron.fr, où je mets mes dates quand j'ai le temps de mettre à jour.
Voilà, là on est le 23, il y a une date qui arrive prochainement, pas en octobre, novembre, décembre?
J'ai aucune mémoire, donc je sais pas.
Allez voir son site internet, son Insta, sinon merci beaucoup. Adrien, je reprends dans l'ordre chronologique avec toi, Nicolas, pour parler du bocal, des papates et de Tic Tac Tower. Tu veux commencer par où? Rappeler l'essentiel sur le bocal peut-être, les auteurs et autrices de jeux de plateau à Angers?
Oui, bah après l'idée c'est de se retrouver assez régulièrement, et puis si jamais il y a des auteurs, autrices en herbe qui nous écoutent et qui n'hésitent pas à nous contacter, on a le site internet Le Bocal, vous mettez Le Bocal Angers, vous trouverez les informations.
Voilà, tout simplement, il y a plein de beaux jeux à découvrir, hein. Il y a vraiment des talents.
Exactement.
Même si tous ne sont pas édités par des grands distributeurs et tout ça, les chaînes nationales, ça n'enlève rien à la beauté ludique de ces jeux.
On n'a pas beaucoup d'événements publics pour pouvoir les faire tester, mais dès qu'il y a un festival autour d'Angers, n'hésitez pas à venir nous voir sur nos emplacements, parce qu'on a toujours plaisir à vous montrer les jeux. Le festival sur Angers avec le concours de proto, parce que Tic Tac Tower a quand même gagné le prix public en début du mois. Donc moi aussi j'ai une petite couronne.
Mais félicite.
Bravo.
Voilà.
Ça ressemble à quoi une couronne de jeu de plateau?
C'est un truc qu'on met puis qu'on enlève tout de suite.
Modalisé en 3D.
C'est ça. Ouais, voilà, c'est juste pour la photo. Ça c'est concernant le bocal et puis les jeux de plateau d'une manière générale à Angers. Sinon plus précisément pour Tic Tac Tower, alors le prototype qui n'est pas plus qu'un prototype, puisque du coup on peut le commander sur ton site internet. Hein.
Effectivement, vous allez sur nbconception.fr et puis vous trouverez facilement le lien. Vous pourrez choisir les couleurs de votre jeu et vous aurez en avant-première le jeu Tic Tac Tower chez vous.
Et les papates, là par contre c'est
les papates, vous allez trouver exactement. Vous pouvez le trouver dans tous les types de magasins, certains magasins de sport comme Intersport. Vous pouvez le trouver à Cultura. Vous pouvez le trouver chez Sortilège. Voilà, donc vous pouvez vraiment le trouver un peu partout.
Convaincu par les papates, Nolwenn?
Très très convaincu, j'y songe pour des cadeaux de Noël.
Ah. Et c'est pas une blague, elle a vraiment noté hein, les papates avec des P.
Et ben faudra revenir me voir, moi je ferai les dédicaces illustrées parce que je suis illustrateur du jeu. Donc.
On reste en contact, tu reviendras dans l'émission, on fera une séance dédicace ici s'il y a besoin. Merci beaucoup Nicolas en tout cas.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine peut-être.
À la semaine prochaine.
Ou une autre activité te concernant. Juliette Abdon, Miss Curvy, Pays de la Loire 2024. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette à la fois de cette expérience incroyable que tu as vécue et puis de l'âme, de l'essence même de ce concours auquel tu as participé?
Eh bien que justement, si on n'a pas confiance en soi, si on veut s'assumer ou juste participer à un concours et rencontrer des gens qui sont dans les mêmes problématiques que nous, il faut foncer. Vous pouvez encore vous inscrire. Les castings, c'est le 27 octobre et le 3 novembre. C'est directement sur le site, donc faut y aller.
Tout simplement, il faut y aller. Et pour la suite, concernant les actualités, si on veut voir si oui ou non tu vas être élue Miss Curvy France 2025, du coup, comment ça marche?
Eh bien, on peut me suivre sur mes réseaux, Juliette-du-bas Miss Curvy, alors PDLL, parce que Pays de la Loire, ça ne rentre pas, c'est trop long, 2024. Et sinon, directement aussi, on a des Facebook, on a des Insta, Miss Pays de la Loire, il y aura toutes les infos.
Eh ben bon courage à toi, merde à toi. Merci. Et puis on se tient informé également pour les prochaines sessions dédicaces si tu veux en faire ici en studio. Nous demain on se retrouve avec Le Quai, un petit peu de culture, ça fait pas de mal, même si on a selon certains auditeurs beaucoup d'entopettes, mais moi je trouve qu'on a suffisamment et qu'on pourrait mettre encore plus. On parlera des actualités bien sûr du CDN et du CNDC. D'ici là prenez soin de vous, à demain et topette. Oh, oh.